Salut les amis, là il est 10h40, nous sommes toujours en direct sur IMO, sur Territoria et sur tous les agrégateurs de podcasts. Un petit clin d'œil à mes amis de Sud Radio. On va se retrouver samedi matin dès 9h17 et je vous le dis, nous aimons les maires de France. Les Français aiment leur maire, d'ailleurs ils sont 87% à plébisciter le mandat électoral. C'est un peu schizophrénant d'ailleurs quand on voit comment les Français perçoivent les hommes politiques. On va en parler justement. Nous sommes ici au congrès Ville de France, seconde journée, dans un endroit magnifique, un ancien manège, dans la caserne, à proximité même dans le centre de Libourne. Et on a d'ailleurs eu le plaisir d'avoir Philippe Buisson, le maire de Libourne, l'autre de ces lieux, tout à l'heure. Demain, dont il s'agit bien évidemment, alors bon, faiblesse coupable, parce que c'est affectif, maire de Bourg-en-Bresse, né également à Lyon, comme moi, à la Croix-Rousse, Jean-François Debat, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Mais fort bien, nous sommes dans un lieu superbe, rassemblés avec les collègues maires, avec des partenaires, pour échanger sur des enjeux importants pour nos villes et agglomérations moyennes. Et puis alors, petite cerise sur le gâteau, il fait beau, mais la canicule est passée.
Alors, maire de Bourg-en-Bresse et vice-président de l'association des maires de France, des villes de France. Ville de France, on est d'accord là-dessus?
Absolument.
Alors, justement, le rôle du maire est un rôle important, est un rôle majeur. Un petit sentiment comme ça, à brûle pour point, très spontané. Un carton d'audience ici, beaucoup de monde, très agréable. Des ministres sont venus, pas le Premier ministre. Alors j'ai lu le communiqué de presse que vous avez d'ailleurs publié, je peux en parler, c'est public.
Bien sûr.
Voilà, dans la presse, et je vois le regret que François Bayrou, maire de Pau, quand même, ne soit pas venu. C'est plus qu'une pointe de regret, c'est presque... voilà, vous l'avez pris moyennement, on va dire.
Oui, nous n'avons pas compris cette décision que nous prenons dans le contexte actuel comme un manque de considération. Pour un peu de désintérêt finalement pour nos villes et agglomérations médianes. Nous représentons globalement entre nos villes et communautés d'agglomération, les villes-centres, à peu près entre 15 et 20 millions d'habitants. Ces terres médianes qui sont des terres d'équilibre entre le monde rural et périurbain, la France des gilets jaunes autour de nos agglomérations, et le monde urbain qui est le cœur de nos villes, d'équilibre par rapport aux métropoles. Le Premier ministre avait annoncé sa venue. Il n'était pas obligé de le faire.
C'est vrai qu'il l'avait annoncé.
Il avait annoncé sa venue. Le fait que 48 heures avant, pour un motif qui était parfaitement prévisible, il ait décidé de ne pas venir, oui, dans le contexte, ça nous a fortement agacés. Parce que nous avons besoin de lui dire des choses. Nous avons besoin qu'il les entende. Et nous attendions qu'il nous apporte quelques réponses, ou à minima, qu'il nous porte de la considération. Vous savez, les maires, nous sommes, nous, des maires à la fois républicains, responsables et globalement modérés, de gauche et de droite. La France d'avant, si j'ose dire, hein, le vieux monde, comme disait à un moment donné le président de la République, ça veut dire que nous travaillons avec tout le monde, nous respectons les gouvernements, quels qu'ils soient. Nous portons des revendications, nous demandons un certain nombre de mesures. Nous sommes conscients de la situation du pays et nous n'attendons pas à être exonérés des efforts. Mais nous participons aux travaux. Nous sommes constructifs. Nous attendons juste une chose, c'est qu'en retour, on ait de la considération de la part et de la prise en compte de la part du gouvernement. Aujourd'hui, nous savons très bien, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les maires on a senti hier en Assemblée Générale que la colère était forte, beaucoup plus que d'habitude.
Absolument.
Parce que ça n'est pas la première fois. Parfois, le Premier ministre ne vient pas.
Mais le contexte est particulier.
Oui, parce que finalement, qu'est-ce que nous avons devant nous? Nous avons une situation politique dans laquelle, on le sait, il n'y a pas de majorité, où tous les jours, parce qu'il y a une proposition de loi sénatoriale, on fait un grand coup de zig, puis après un grand coup de zag sur des politiques que nous sommes en train de mener. On a le matin un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il faut arrêter le financement des ENR alors que nous sommes organisés pour les mettre en place. On a une majorité composite qui vient non pas ajuster le ZAN comme nous le demandions, mais quasiment le remettre en cause alors que nous sommes en train de le mettre en œuvre. On a surtout...
Les ZFE également, bien évidemment.
On a aussi des enjeux lourds en matière de logement. On a l'impression qu'aujourd'hui, on traite ça par le petit bout de la lorgnette. Et puis, il y a une situation budgétaire nationale des finances du pays qui est réelle, dont nous ne sommes pas à l'origine, parce que je le dis quand même très clairement, la suppression de la taxe d'habitation, c'est 24 milliards d'euros tous les ans. La suppression, qui était un impôt local, la suppression de la CVAE, l'impôt des entreprises, c'est 9 milliards d'euros. Ça fait 33 milliards d'euros d'impôts locaux qui ont été supprimés sans que nous l'ayons demandé, nous l'avons même dénoncé à l'époque. Aujourd'hui, on nous le compense modérément, mais ça veut dire qu'il y a 33 milliards d'euros de déficit qui servent à financer des impôts qui ont été supprimés. Et aujourd'hui, donc ça veut dire que si on avait déjà 33 milliards d'euros de moins de déficit, on aurait quasiment réglé notre problème budgétaire.
C'est un non-sens.
Ça, ben oui, mais ça,
on est d'accord.
C'est la démagogie libérale qui nous a amené à ces suppressions d'impôts qui finalement creusent des déficits. Et nous maintenant, on nous dit, donc nous n'en sommes pas à l'origine. Taxe d'habitation et CVE. Je ne parle même pas des autres impôts supprimés qui sont du débat national. Moi, je parle uniquement
CVAE et CVAE taxe d'habitation.
Et taxe d'habitation, ça fait 33 milliards d'euros de déficit de plus. Et aujourd'hui, on nous dit, vous comprenez, il y a du déficit. Donc, ça va être difficile, hein, il va falloir faire des efforts. Donc, nous entendons cela. On est quand même très agacés parce qu'on le disait à l'époque, mais on ne nous a pas écoutés. Et maintenant, on ne sait toujours pas à quelle sauce on va être mangé. Aujourd'hui, on a des injonctions contradictoires. Et vous savez, les injonctions contradictoires en psychiatrie, ça conduit à la folie. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons devant nous? On a un président de la République qui nous dit il faut créer 200 000 places de crèches supplémentaires. Et je crois qu'il a raison. Simplement, une place de crèche supplémentaire, ça coûte 10 000 euros à la fin à la collectivité, en plus de ce que payent les caisses d'allocation familiale. On les fait ou on ne les fait pas, ces places de crèche supplémentaires? On nous dit, quand le ministre de l'Intérieur se déplace, il nous encourage fortement à avoir plus de policiers municipaux. Et on a même des élus qui se font un peu tenser parce qu'ils n'en auraient pas assez. On les paye avec quoi? On nous demande de développer les travaux de réhabilitation thermique de nos logements.
On a même un calendrier qui vous oblige à le faire.
Et on rénove nos écoles et on nous dit qu'il faudrait aller plus vite, oui. Etc. Et dans le même temps, on nous reproche de dépenser l'argent que nous dépensons pour faire cela. Et ça, oui, ça fait partie du débat qui est devant nous.
Est-ce que c'est l'absence, Jean-François, d'une vision globale à 360 degrés qui devrait être portée, incarnée par le président de la République?
Alors, le président de la République ou le gouvernement? On est dans une république.
Hier, il y a eu deux ministres qui ont tenu chacun des discours contradictoires. Ça n'est plus rien comprendre.
On connaît le contexte politique du moment. Mais je le dis clairement, ce que nous voyons, c'est qu'il n'y a même pas de projet de loi porté par le gouvernement. Il se fait balloter par des propositions de loi issues des différents groupes du Sénat, de l'Assemblée, avec des majorités composites qui, en fait, donnent aux Français le tournis et donnent aussi un peu aux maires le tournis. Nous savons... le gouvernement envoie aussi des signaux contradictoires. Le Premier ministre a ouvert, le 6 mai, une conférence de financement des territoires en disant il faut trouver 40 milliards pour... budget 2026, forcément, il y en aura qui concerneront les collectivités territoriales. Donc, on va en parler et on va en parler dès le mois de mai pour pas commencer au mois de septembre comme d'habitude. Plutôt bonne initiative. Donc, nous y allons. On pose nos cadres. Mais deux mois après, après des heures de réunion, et je les ai toutes faites, on ne sait toujours pas ce à quoi le gouvernement pense. Il imagine, et on a en face de nous des cabinets et des ministres qui imaginent qu'en réduisant nos recettes, ça va réduire à la fin notre besoin de financement, c'est-à-dire notre emprunt. Mais ceci est grotesque. Nous avons besoin de le dire au gouvernement, et nous l'avons dit à François Rebsamen hier, ne pas actualiser les bases de taxes foncières, c'est-à-dire de pas au niveau de l'inflation. Ça veut dire priver les collectivités de recettes qui ne coûtent rien à l'État. Mais qu'est-ce qui va se passer si on nous prive de ces recettes? Évidemment, nous allons faire le maximum d'économies. Évidemment, nous allons essayer d'étaler un peu les investissements, mais ce qui aura d'ailleurs des conséquences sur l'activité économique. Mais à la fin, de toute façon, on empruntera davantage. Aujourd'hui, les collectivités empruntent pour financer une petite partie de leurs investissements quand l'État emprunte pour financer le remboursement de sa dette. Nous entendons le fait que l'objectif est de réduire ce besoin de financement, comme on dit en termes techno.
Bien sûr.
Encore faut-il que les mesures soient cohérentes. Quand on imagine une année blanche qui a été agitée comme cela, mais dont on ne sait pas ce qu'elle recouvrerait, et qu'elle pourrait aller jusqu'à ne pas actualiser les impôts locaux, mais on se dit, mais on marche sur la tête, parce que ça ne coûte rien au budget de l'État, c'est une actualisation normale des recettes, et on voudrait nous en priver, alors que l'objectif est de réduire les déficits, nous ne comprenons pas.
Alors justement, on est dans un contexte particulier, vous l'avez dit, la fébrilité de vos collègues est réelle. D'ailleurs, en cours de mandat, quand on analyse le dernier mandat de maire, on voit qu'à peu près 30% des maires, 35%, ont jeté l'éponge et ont démissionné en cours de mandat, ce qui est un phénomène.
Il n'y a pas 35% de maires qui ont démissionné. Alors, il y en a 35% de plus.
Alors, oui,
voilà, c'est un petit nombre de maires.
Voilà, voilà, pardon. Oui, mais, voilà, pardon,
il
n'y
a pas un maire sur trois qui a démissionné.
Non, pardon. Oui, vous avez raison. Non, vous avez raison, absolument. Mais c'est un signal qui démontre parfois la désespérance du maire face à un État qui est ultra centralisé, qui se jacobinise peut-être, qui a des injonctions contradictoires. D'ailleurs, j'aime beaucoup votre phrase quand vous dites que les injonctions contradictoires mènent à la folie. C'est vrai, parce qu'on a l'impression de choses complètement folles. Mais on a quand même des échéances électorales, il y en a trois. Il y a les municipales de 2026, la présidentielle et législative. Quand on est un homme politique comme vous, Jean-François Debat, de quoi espère-t-on aujourd'hui à l'échelle de votre ville, Bourg-en-Bresse, mais aussi avec la vision politique que vous incarnez, d'un long combat politique que vous avez mené sur ces 20 dernières années?
Alors, moi, ce que je vois d'abord, c'est que, et ça, je le dis aux sénateurs, mais c'est lié à la réponse à votre question. Les sénateurs, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont comme ligne de mire épargner les petites communes, quitte à faire... qui seraient fragiles parce qu'elles ont un petit budget, et donc quitte à faire payer plus les gros, qui seraient riches au motif qu'ils ont un gros budget. Je dis, c'est une grave erreur. Qui aujourd'hui assure les services, l'accompagnement des petites communes, des maires des petites communes, pour justement les aider à, dans l'exercice de leur mandat? Ce sont les communautés d'agglomération. Ça n'est plus l'État parce qu'il n'en a plus les moyens. Donc, si on prive les communautés d'agglomération, les EPCI, des moyens d'accompagner les maires, de leur apporter du soutien administratif, juridique, en termes d'ingénierie,
oui, etc. La mutualisation des ressources qui permettent
de leur dire que quand ils ont un problème, ils ont un référent. Eh bien, si on nous prive de ces moyens, eh bien, ça se retentira sur les maires des petites communes.
Et c'est ce qui semble se dessiner là.
Ce que je vois, c'est ce que je crains, c'est ce que nous craignons ici. C'est cela, parce qu'on connaît ce tropisme. Vous savez, sur 35 000 maires, il y en a 32 000 qui font moins de 2500 habitants. Donc, par définition, nous qui représentons autant d'habitants, on est beaucoup moins nombreux. Mais ça serait un mauvais calcul. Le deuxième, moi, ce que je crains, si vous voulez, ce que je vois sous mes yeux, sous nos yeux, c'est le lien avec la politique nationale. Les Français ont gardé, en gros, le vieux monde pour leurs élus locaux. Ils sont PS, écolo ou LR, divers droite. Pour l'essentiel des collectivités. Parce que nous gérons nos villes, agglomérations, quelles que soient nos sensibilités politiques, et que nous assurons une forme de stabilité du territoire. Ce que nous voyons sous nos yeux, c'est une fracturation qui fait que, d'ailleurs, aux élections nationales, ils ne votent plus pour ces partis, pour les nôtres, mais ils votent soit pour le président de la République, M. Macron, soit pour l'extrême droite. Et ce que nous voyons, c'est finalement, dans nos territoires, qui sommes les cœurs de bassins de vie, on est là où se joue une partie de la fracturation du pays, de cette division entre des gens qui disent « le problème, c'est les gens qui sont en périurbain, en rural, parce qu'ils polluent pour venir travailler, et donc c'est leur faute ». Et puis ceux qui habitent dans ces territoires, ils disent « non, mais les urbains nous donnent des leçons, mais en fait, c'est eux qui captent les richesses, ce qui n'est ni vrai dans un sens, ni vrai dans l'autre ». Mais on sent cette fracturation. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de les limiter. Pour moi, l'objectif en 2026, c'est de limiter ces fracturations, c'est pas de les accroître. Et finalement, à tort ou à raison, une partie du vote pour les extrêmes, notamment l'extrême droite, moi, c'est 40% de mon territoire, dès le premier tour.
de gens vraies menaces
qui ne sont pas touchés par les problèmes de sécurité ou d'immigration parce qu'il n'y en a pas dans leur commune.
Oui. Mais, ce qui est assez paradoxal.
Ce que nous voyons, c'est qu'à tort ou à raison, une partie du sujet, c'est qu'une partie de ces personnes considèrent, je le dis encore une fois à tort ou à raison, qu'ils payent des impôts, mais qu'en termes d'accès à la santé, en termes de sécurité et en termes d'éducation, le compte n'y est pas, qu'ils n'en ont pas pour leur argent. Encore une fois, tout ceci est contestable, mais malgré tout, on sent bien cela. Ça en amène à cette radicalisation des votes, parce qu'il est très facile, quand on n'a jamais été au pouvoir et qu'on est radical et populiste, de venir capter cette colère. Nous, moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que demain, on ait la même chose sur nos services publics locaux. Et qu'on dise, non mais là, moi je paye des impôts, mais alors les écoles c'est n'importe quoi, les villes c'est plus entretenu, il n'y a plus personne pour s'occuper de moi, etc. Et que finalement, on exacerbe encore ces tensions, on exacerbe ces colères. Vous savez, la colère n'est jamais bonne conseillère, mais elle est difficile à capter. Ce que j'ai senti hier, c'est que...
Et on ne peut pas présumer l'ampleur de cette colère.
On
ne
peut pas présumer l'ampleur de cette colère non plus.
Voilà. C'est historique dans le pays, c'est historique. Hein.
Moi, ce que je considère, c'est que l'enjeu pour nous, maires, présidents d'agglomération, c'est d'être, dans les années qui viennent, des gens qui vont pouvoir répondre, vont pouvoir réduire les fractures plutôt que les accroître. Et c'est le cas de tous nos collègues ici. Parce que nous travaillons, en général, dans des majorités, dans nos agglomérations qui sont larges, qui vont au-delà des clivages politiques.
Que vous avez su fédérer, hein, pour le rappeler.
On a besoin de montrer aussi cela. On a besoin que nos concitoyens voient que sur le terrain, au moins, il y a des hommes et femmes politiques qui sont capables d'être dans le concret, de travailler ensemble, de ne pas exacerber les fractures. Moi, ce que je pense, c'est que le mandat qui va s'ouvrir pour celles et ceux qui seront en responsabilité va être un mandat compliqué. Pas seulement sur le plan budgétaire pour nos politiques. C'est que nous allons devoir résister pied à pied à la tentation de couper les branches des services publics qui pourtant forment une partie de la cohésion sociale. Moi, aujourd'hui, je donne un exemple. On développe des cars réguliers dans le périurbain autour de Bourg-en-Bresse pour assurer 8-9 fois par jour des allers-retours, donc une vraie alternative à la voiture. Ça coûte de l'argent. Si demain on ne peut plus et qu'on est obligé de se retirer, le message qu'on envoie à nos concitoyens, c'est, vous voyez, ils se foutent de nous, hein. Ils n'en ont rien à faire. Et ça, on exacerbe les tensions. Ouais. Et donc, je pense que dans les années à venir, nous aurons besoin de nos territoires d'équilibre, vraiment au sens propre du terme, pour, entre les métropoles et le monde rural, jouer ce rôle de tampon. Nous sommes prêts à le faire. Encore faut-il que l'État le comprenne, prenne en considération ce que nous disons, nous accorde quelques moyens juridiques et parfois financiers pour pouvoir continuer à le faire, et qu'on n'ait pas le sentiment d'être coincé entre le marteau et l'enclume en permanence, parce que j'ai la conviction que ce que nous faisons est dans notre différence, dans nos différences de sensibilité, parce que les maires de Ville-de-France, ils sont de gauche et de droite, hein, et paritairement, ce que nous représentons et notre rôle dans le prochain mandat sera encore plus important, y compris pour l'équilibre du pays, que ce qu'il a été au cours des dernières années.
C'est un programme politique, Jean-François Debat.
En tout cas, c'est un
objectif politique. On vous écoute. Non, mais oui. Je vais vous dire le sentiment que j'ai quand je vous écoute. Le sentiment que j'ai, c'est que c'est pétri de bon sens.
Bah, écoutez, c'est ce que je pense.
Mais de bon sens. C'est-à-dire que, en fait, quand je vous entends, et je vous le dis très franchement, j'entends pas un discours de droite, de gauche. J'entends un discours qui prend en compte une réalité. J'entends un discours qui a une vision. Et le sous-jacent de ce que je veux dire est important. Moi, ce que j'entends, c'est un discours républicain auquel tous les Français veulent adhérer. Tous les Français veulent adhérer. Et on aimerait, si je devais formuler un vœu, que des Jean-François Debat soient plus entendus, si je peux me permettre de le dire, pour que justement, cette prise en compte de cette réalité, qui est une réalité espérante, une réalité positive, parce que dans ce que j'entends, Jean-François Debat, c'est que les solutions, vous les avez, en fait.
Alors, pas tout seul, mais, la vision...
Vous avez la solution. Mais vous êtes provider aujourd'hui de solutions avec les collègues. Tous ceux que j'ai interrogés ici ont des solutions. Il y en a même certains en disant, c'est pas tant l'argent qu'on va demander, mais considération, un travail renforcé avec la préfecture du département, avec des délégations de périmètre sur lesquelles on sera réellement opérant, en nous laissant faire. C'est la reconnaissance dont vous avez parlé. Hein.
Oui, alors il y a une partie des enjeux nationaux sur la répartition de la richesse au niveau global, sur les questions de financement de notre protection sociale, qui ne se régleront pas dans nos territoires.
Oui.
Mais nous pouvons faire beaucoup. Et
moi, mais vous alimentez le débat par des idées innovantes liées à vos territoires.
J'essaye d'articuler une vision et des propositions, à la fois dans le parti politique qui est le mien, Parti Socialiste, qui est comme il est, mais dans lequel je milite et je travaille, y compris sur les solutions nationales. Mais moi, je crois à une chose. C'est que Valéry Giscard d'Estaing disait à un moment donné que son objectif c'était de rassembler 2 Français sur 3. On ne peut pas rassembler 2 Français sur 3 sur tout. Mais ce qui est vrai, c'est que si aujourd'hui on ne partage plus très largement au-delà du spectre, dans le spectre républicain, suffisamment les valeurs sur l'état de droit, sur la protection de nos libertés, sur une conception de la République, à ce moment-là, elle est en danger. La République, elle ne peut pas se jouer à 51-49. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je vois certaines dérives de la famille politique de la droite républicaine, qui est importante pour le pays, et quand je vois aujourd'hui qu'elle hésite entre... là, je parle un instant
entre
de national...
Entre nous, Jean-François Debat, la gauche n'est pas totalement absente, mais également elle de controverses.
Elle n'est pas absente, ouais. Non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de reconstruire... Nous avons besoin de reconstruire une part plus importante de consensus, d'accord, de choses sur lesquelles, finalement, qui ne se discutent plus, qui sont acquises et qui ne sont pas remises en cause.
Je comprends complètement.
Et ça, effectivement, encore une fois, la République ne peut pas se jouer à 51-49, la fraternité républicaine non plus, et un certain nombre de grandes politiques ne peuvent pas se jouer en permanence, être sur le fil du rasoir. C'est ce que l'on avait peut-être dans le passé. Ça donnait peut-être le sentiment un petit peu d'un balancier qui n'était pas assez fort, parce qu'il y avait quand même finalement beaucoup de continuité. Aujourd'hui, je pense qu'on n'en a plus assez et on a besoin de retravailler finalement de la convergence. Non pas du consensus sur tout, non pas de l'unanimisme, mais de la convergence politique pour que la République ne se fracture pas.
Je vous écouterai bien une heure de plus, mais
malheureusement c'est pas
possible. Le créneau est compris, mais je ne vous inquiétez pas les amis. On va retrouver Jean-François Debat souvent sans nos antennes parce qu'on aime ce genre de solution qui pétrit de bon sens. Et vous le dites d'ailleurs, puisque vous nous écrivez sur cette question. Merci Jean-François Debat.
Merci.
Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association Ville-de-France, également le maire de Bourg-en-Bresse. On ira à Bourg-en-Bresse, c'est promis. En plus, le territoire est magnifique. Et je connais de trois adresses très sympathiques où on mange extrêmement bien chez vous. On peut le dire, ça aussi.
Ah bah ouais, non, on peut le dire, on doit le dire.
Voilà, on se retrouve dans quelques instants.